Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. Nous recevons aujourd'hui Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Bonsoir Jean-Marie Le Guen.
Bonsoir.
À mes côtés pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir Valérie.
Et malheureusement, personne de Libération pour nous rejoindre ce soir. Alors Jean-Marie Le Guen, encore une fois aujourd'hui, les terroristes ont frappé. Hein. Cette fois-ci, c'est la Belgique qui a été touchée. Des attentats quasi simultanés ont eu lieu ce matin à l'aéroport de Bruxelles, dans le métro à Bruxelles aussi, dans une station du quartier européen. Le bilan est déjà très lourd, au moins 34 morts, 200 blessés. Jean-Marie Le Guen, savez-vous si des Français figurent parmi les victimes ?
Oui, d'abord une pensée très émue pour ces victimes, pour leurs familles, leurs proches, ceux qui sont morts, ceux qui sont dans la douleur aujourd'hui, et puis évidemment pour nos amis belges, le peuple belge, le gouvernement. Alors sans doute, je ne sais pas au moment où je vous parle s'il y aura
des Français. On est encore dans l'incertitude.
Nous sommes dans cette incertitude. Évidemment... On est touché par cet attentat à Bruxelles, mais on ne peut pas oublier ce qui s'est passé à Abidjan, ce qui s'est passé hier à Bamako, ce qui s'est passé encore aussi à Ouagadougou. Donc, on voit bien qu'il y a, en Turquie, etc., on voit bien qu'il y a une campagne maintenant de terreur généralisée qui est menée notamment par l'État islamique ou par d'autres formes de djihadisme radicalisé, Al-Qaïda et autres. Cela confirme un peu les analyses que nous avions il y a quelques mois lorsque le Premier ministre avait parlé du fait que nous étions en guerre. Nous sommes maintenant dans un processus durable, répétitif, mortel, terrible, terrorisant. Le but, c'est à la fois de nous terroriser, mais c'est aussi de nous diviser, c'est de nous attaquer. Voilà la situation où nous sommes aujourd'hui.
Il y a une revendication très rapide de l'État islamique. On disait que le supposé État islamique était en perte de vitesse. On voit qu'il y a de la coordination. Et la perte de vitesse, c'est pas pour tout de suite.
Non, je crois que depuis que l'État islamique a reculé sur son propre territoire, et les analyses confirment qu'il a reçu des coups et qu'il est en train de reculer. En même temps, il a décidé d'internationaliser son combat de plusieurs façons. D'abord, il crée des succursales métastatiques, si l'on peut parler comme ça, et je crois qu'on peut parler comme ça, notamment par exemple en Libye, mais aussi avec des tentatives au Sinaï, et peut-être sous une forme différente, mais... aussi dans certains territoires africains, qu'il s'agisse du Sahel, même si c'est plutôt Al-Qaïda qui semble l'emporter dans cette zone-là, et puis en Afrique avec la problématique Boko Haram. Donc on voit bien que assailli dans le cœur de son domaine, il essaye d'internationaliser, l'État islamique essaye d'internationaliser le combat, dans une sorte de fuite en avant, mais cette fuite en avant, évidemment, elle est très douloureuse et très significative de ce qu'est la vraie nature terriblement barbare, régressive, violente de cette structure qui est d'abord, je le rappelle, il faut toujours le rappeler, les premières victimes de l'État islamique, ce sont des musulmans, bien évidemment.
Jean-Marie Le Guen, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, après ces nouveaux attentats à Bruxelles, qu'en France, la menace a encore augmenté d'un cran ? On a vu, il y a eu une réunion de crise à l'Élysée tout de suite, de nouvelles mesures, de nouvelles forces sur le terrain annoncées par Bernard Cazeneuve. Est-ce que là, on est vraiment en rouge, rouge, rouge ?
Ces derniers jours et ces dernières semaines, vous avez entendu régulièrement le Premier ministre, le Président de la République et le ministre de l'Intérieur intervenir régulièrement pour nous rappeler que la menace était très présente. Alors, la société française, comme d'autres sociétés, ne peut pas vivre en permanence avec la menace au cœur. Il y a quelque part l'idée de vivre, et donc quand on vit, on veut oublier, y compris à la fois ce qui s'est passé au mois de novembre ou au mois de janvier l'année dernière, et puis aussi la menace. Mais en même temps, le rôle des pouvoirs publics, qui sont à la fois informés et qui ont les éléments d'analyse, c'est de, ils nous ont rappelé que nous étions dans une alerte très forte. Les mots du ministre de l'Intérieur étaient de dire, nous sommes sans doute, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines, nous sommes à un niveau d'alerte supérieur à ce que nous pouvions être le 13 novembre à 14 heures. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'affaire bruxelloise, évidemment, elle crée une tension particulière avec peut-être des tentatives d'attaques répétées, peut-être avec des tentatives de fuite d'un certain nombre de gens des réseaux. Parce que, au total, si on fait le total des gens qui semblent aujourd'hui, à ce stade de l'enquête, on ne prétend pas avoir terminé tout, mais à ce stade de l'enquête, si on prend la totalité des gens que l'on connaît comme étant en relation tant sur les attentats du 13 novembre que ceux qui se sont passés aujourd'hui, eh bien, il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont impliquées d'une façon ou d'une autre dans ces réseaux systémiques. C'est dire quand même l'importance quantitative de cette problématique de gens qui basculent dans le terrorisme, et donc la nécessité évidemment d'un travail en profondeur et très systématique, mais tout à fait implacable par ailleurs.
Alors Manuel Valls dit en boucle, nous sommes en guerre, mais l'ennemi, c'est vrai, est invisible, il est disséminé. Vous le disiez il y a quelques instants, vous n'employez pas cette expression, mais c'est une hydre qui repousse un peu partout, et où qu'elle soit. Comment combattre dans le fond un ennemi invisible?
Bon, oui, nous sommes en guerre. Je pense que nous sommes victimes d'attaques dans notre chair, nous sommes victimes d'attaques qui ont un caractère stratégique. Le but, c'est de terroriser, je l'ai dit, mais le but est aussi de nous diviser, de créer les conditions d'un affrontement, j'allais dire, de type guerre civile, de pousser notre société vers les extrêmes et à partir de là, de fragiliser et de détruire ces sociétés démocratiques par le recours à la montée des extrêmes et à la violence. Et donc, puis nous sommes en guerre parce que nous avons un certain nombre d'États, je pense notamment à un certain nombre d'États africains, par exemple typiquement le Mali, qui ont été directement agressés avec des risques majeurs et qui nous ont appelé l'Union africaine et la France à venir les aider. Et nous sommes en guerre parce qu'il y a l'État islamique à lui-même un territoire. Donc nous avons une guerre en fait qui est polymorphe, c'est-à-dire que il y a des formes classiques de la guerre. Je pense qu'il se passe par exemple au Moyen-Orient. Il y a des formes de renseignement, il y a des formes de prévention du terrorisme, il y a des formes de vigilance, il y a des formes d'enquête, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il y a toute la palette qui est en train de se mettre à l'œuvre, mais c'est un processus, encore une fois, qui n'est pas simplement la radicalisation de mouvements sociaux qui partent dans la violence, c'est un mouvement beaucoup plus stratégique de ce point de vue et qui mérite d'être traité comme tel.
Vous l'avez dit, il y a une volonté de diviser et d'attaquer, là aujourd'hui, l'exécutif l'a rappelé, l'Europe, les valeurs. Je vous propose d'écouter Manuel Valls qui s'exprimait, vous y étiez certainement tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, on en reparle.
L'Europe est attaquée et contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, la réponse doit donc être aussi européenne. Notre espace de liberté doit être également un espace de sécurité. Et la France continue et continuera de peser de tout son poids, car il y a urgence, et nous ne cessons de le répéter, avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur.
Alors, il y a urgence, il y a une situation qui se pose au niveau européen. Est-ce que la coopération européenne est à la hauteur des enjeux? On en parle depuis des mois.
Écoutez, la coopération européenne a beaucoup progressé dans beaucoup de domaines. Il y a d'abord la coopération bilatérale, par exemple entre la France et la Belgique. Il y a une coopération judiciaire. Vous avez vu par exemple que dans les événements de Bruxelles de la semaine dernière, il y avait des policiers français qui étaient aux côtés de leurs collègues belges pour mener les enquêtes. Il y a une coopération, pas simplement au plan policier, au plan judiciaire. Il y a des échanges d'informations et de procédures. Et puis, vous avez tout le travail qui est fait pour essayer que l'Europe ait des frontières plus effectives, qui soient plus maîtrisées. Je ne parle pas simplement de la problématique des migrants, je parle de la problématique du contrôle de l'entrée d'un certain nombre de gens dont on peut craindre, par ailleurs, puisque nous savons qu'ils ont détourné des faux papiers, qu'ils sont en masse avec des documents volés, puis par ailleurs falsifiés, et qu'ils essayent de se mêler aux migrants. Donc tout ce travail, il est insuffisant, mais il se met en œuvre petit à petit. Et puis, enfin, il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont eu l'occasion aujourd'hui de rappeler la manière dont le Parlement européen n'avait pas adopté ce qu'on appelle les dispositifs PNR, qui permettent tout simplement d'échanger sur les fichiers
des passagers européens
et donc la traçabilité pour savoir si effectivement il y a des parcours d'un ensemble de terroristes. Ça c'est bloqué encore au Parlement européen par une alliance de l'extrême. Non, attendez, c'est plus compliqué que ça. Il y a des gens de gauche qui ont posé des questions, effectivement, mais il y a aussi aujourd'hui c'est bloqué par l'extrême droite et par l'extrême gauche plus quelques autres. Mais il y a eu un accord de la Commission. Il faut maintenant que ce soit voté par le Parlement européen. Et l'ordre du jour est bloqué. Et d'ailleurs, il faudrait que les noms soient connus des formations politiques.
Ça fait des mois depuis le 13 novembre. Ça a été une des premières mesures. On a l'impression que l'Europe est en panne aussi à ce niveau-là.
L'Europe, c'est les parlementaires qui ont été élus d'extrême droite notamment, et aussi d'extrême gauche, qui ont été élus par des citoyens européens. Et malheureusement, il y a peu d'informations qui sont données sur qui sont ces gens qui bloquent. Moi, j'en appelle, puisque là, je suis devant des médias, n'hésitez pas à enquêter de façon encore plus transparente sur qui fait quoi au Parlement européen. Parce que ce sont des élus qui ont été élus par des citoyens européens, donc français.
Alors il y a l'aspect politique et il y a l'aspect, on va dire, policier. Les services belges sont-ils aussi efficaces que les autres? Je pense à la France, par exemple. On dit que les Belges manquent, par exemple, d'enquêteurs arabophones.
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que d'abord, personne, honnêtement, les Français, je vous le rappelle, ont eu deux attentats sur leur territoire, nous autres, Français. Donc nous ne sommes pas là, même si
infaillible.
Objectif, nous ne sommes pas infaillibles. Deuxièmement, il est vrai que, notamment sur les attentats du mois de novembre, il semble bien que le lieu de préparation et de direction de ces attentats ait été la Belgique.
Eh ben oui, s'ils sont venus en France préparer, les Français sont venus.
Je pense que la Belgique est une société qui a une tradition très puissante, de très grande démocratie libérale, avec une libéralité très forte. Et je pense, oui, vous avez raison, il y a eu un mode d'intégration ou de non-intégration des populations, qui est différent du modèle français, avec sans aucun doute une tendance communautariste plus forte, une acceptation du communautarisme beaucoup plus fort en Belgique qu'en France.
C'est le pire de la gauche, alors? Parce que Molenbeek, c'était communiste. Est-ce que c'est le pire de la gauche dans le laxisme?
Non, excusez-moi. Le communautarisme, d'abord, il est, avant d'être de gauche, il est dans la culture de certains pays. La Grande-Bretagne est plutôt communautariste, sans être de gauche. Les États-Unis sont plutôt communautaristes, sans être le moins du monde de gauche. Et il y a une tradition philosophique, j'allais dire, de philosophie politique, au-delà de la gauche et de la droite, qui est une tradition communautariste. Parce que vous avez un communautarisme de gauche, qui est celui, on est en quelque sorte dans la complaisance, mais vous avez un communautarisme de droite, qui est finalement dans l'apartheid, dans « je vous mets, débrouillez-vous entre vous, vous, gens d'une autre culture avec laquelle je ne veux rien avoir à faire ». Donc vous avez deux communautarismes, et en l'occurrence, ils se rejoignent souvent.
Un bon et un mauvais, c'est ça?
Mais c'est très facile, c'est très
difficile.
Excusez-moi, j'ai pas dit du tout un mauvais, un bon. Je dis qu'il y a plusieurs façons d'être communautaire. Vous aviez l'air de dire que c'était la gauche qui était communautariste. Non.
Parce que Molenbeek a été communiste pendant de longues
années. Oui, mais la Belgique, mais Molenbeek n'existe pas, il existe en Belgique. Et en Belgique, il y a une tendance, il y a une tradition.
Est-ce qu'il n'y a pas eu du laisser-faire en Belgique? Sous couvert de cette philosophie politique,
écoutez,
de ce respect des communautés,
est-ce que là on n'a quand même pas une plaque tournante
du terrorisme qui s'est retrouvée en Belgique?
Écoutez, il y a des problèmes en Belgique, d'accord, mais je ne sais pas aujourd'hui et ce soir que je vais me permettre, en tant que représentant du gouvernement français, de donner des leçons à quiconque. Nous sommes là pour nous aider mutuellement, pour échanger des informations mutuellement. La France a une tradition d'un État plus fort que l'État belge. Vous savez que la Belgique a été traversée. Pourquoi on parle de communautarisme en Belgique?
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'États.
Oui, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup d'États? Parce qu'il y avait une scission très forte, comme vous le savez, quand je parle à l'imparfait, c'est peut-être au présent, entre les Wallons et les Flamands. Et chacun faisant du communautarisme, si j'ose dire, en tout cas, du repli sur une communauté nationale. Je porte pas de jugement au point où j'en suis. Donc, à partir de ce moment-là, l'État belge a sans doute favorisé, je ne dirais que ça, a favorisé une certaine forme de vivre ensemble, qui était un vivre ensemble séparé sous une forme plutôt communautaire. Oui. Et nous avons souvent reçu des leçons, nous les Français, par exemple du Conseil de l'Europe, de structures de gens de bonne volonté, des libéraux, parfois des sociodémocrates, des écologistes, parfois même des conservateurs, qui nous disaient « Ah mais non, il faut respecter les gens dans leurs différences, etc. » Alors que le modèle républicain français, qui n'est d'ailleurs ne réussit pas à 100%, mais il est construit différemment. Et nous, nous refusons de discuter avec des communautés, nous voulons que chacun ait les mêmes droits. Que chaque individu n'ait pas les droits de sa communauté, mais les droits de citoyen. Et que rien ni personne, et certainement pas sa communauté, vienne lui dire comment il doit vivre. Ce qui pose un autre problème.
C'est belge aussi qui facilite pas vraiment la prise de décision, et ça joue.
Oui,
tout ce que vous décrivez là, il y a un système politique qui est bloqué.
Oui, mais enfin, le système politique français n'a pas que des qualités. Donc, si vous le permettez, je n'irai pas plus loin sur la critique des autres.
Est-ce que cette dérive...
Je pense qu'il faut d'abord qu'on travaille sur nous-mêmes avant de dire quoi que ce soit.
On a beaucoup parlé de Molenbeek, ce quartier où a été arrêté Salah Abdeslam. Visiblement, il s'est réfugié pendant ces 4 mois de cavale à Molenbeek et très proche. Il y a une espèce d'omerta qui est évidente là-bas. Est-ce que là-dessus, il n'y a quand même pas un peu une faillite
le Premier ministre, à juste titre, a dénoncé en France l'existence de ghettos.
Justement.
Chez nous, nous n'acceptons pas le communautarisme, mais nous le laissons par faiblesse politique, au sens faiblesse politique collective, pas des politiques, même si les politiques ont leurs responsabilités. Nous n'avons pas fait, en France, tout ce qui est conforme à nos idéaux républicains. Il y a en France des quartiers où les idéaux et la loi de la République ne sont pas respectés. C'est le problème. Donc si vous voulez bien, avant d'expliquer que le modèle français est meilleur que le modèle belge, même si j'ai tendance à le penser...
Est-ce qu'on n'en arrive pas dans certaines zones en France à des problématiques et des situations identiques à
celles que nous avons ? Si nous ne réagissons pas, et l'intention de ce gouvernement est de réagir, puisqu'il va, il tient d'ailleurs... une série de rencontres importantes ont eu lieu et vont avoir lieu autour du Premier ministre. La semaine dernière, autour des problèmes liés à, notamment au culte musulman, à l'exercice.
Et
à
une réunion sur la radicalisation hier avec...
Voilà. Et donc, sur tous ces sujets, ce sont des sujets ouverts que nous ne traitons peut-être pas d'une façon suffisamment forte encore, mais sur lequel le Premier ministre a l'intention de s'engager très fortement. Et il y aura d'ailleurs une loi à l'été, au début de l'été, qui est la loi égalité-citoyenneté, qui sera une loi qui mettra ces questions sur la table.
Où on en est de la déradicalisation ? On avait évoqué l'ouverture de centres...
Il y a des centres qui sont en train de se mettre en place en France. Il faut maintenant... on invente aussi. On n'a pas... Vous savez, l'État, assez, très justement, était très prudent sur toutes les questions touchant à la problématique religieuse, pour dire les choses comme elles sont. Nous sommes un État laïque et nous avons énormément de scrupules, et c'est parfaitement normal de ne pas intervenir... à l'intérieur de l'organisation des religions. Alors, ça fait des années qu'on se pose la question de savoir comment on pourrait faciliter la création d'une part de l'islam de France. Bon, on essaye. Il faut peut-être encore réfléchir à être plus créatif et aller plus loin. Et puis, deuxièmement, il y a ce qui n'a rien à voir, ou plus exactement, qu'il ne faut pas faire l'amalgame avec l'islam, mais il y a des gens qui sont dans la radicalisation. Soit parce que leurs idées religieuses fondamentalistes radicalisées les amènent à passer à l'acte, soit parce que ils ne passent même pas par la case radicalisation religieuse, ils passent par la case violence directement, et violence où on habille cette violence d'une radicalité religieuse. Et là, nous commençons à travailler avec des psychologues, avec des sociologues, à travailler sur ces processus de déradicalisation.
Ce sera long, on l'a bien compris, Jean-Marie Le Guen. C'est la fin de la première partie de Mardi Politique. Nous retrouverons Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en relation avec le Parlement, dans quelques minutes.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans la seconde partie de Mardi politique avec notre invité Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, et toujours à mes côtés Roselyne Fèvre de France 24. Alors on a beaucoup parlé dans la première partie, Jean-Marie Le Guen, de ces attentats qui ont frappé Bruxelles. Quand on parle du terrorisme islamiste, on évoque souvent la question des migrants. Et je vous demande de réagir au propos de Marion Maréchal Le Pen. Elle s'est exprimée dimanche sur BFM TV avant ces nouveaux attentats. Et elle a mis en cause l'action du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme après les attentats du 13 novembre et la politique migratoire.
Ce qui est sûr, c'est que toutes les dispositions seraient prises pour éviter cela. Et que si les mesures du Front National avaient été mises en place au moment où il y avait eu les attentats du 13 novembre, il n'y aurait probablement pas eu de 13 novembre.
Il n'y aurait pas eu de 13 novembre. Le Front National au pouvoir, il n'y aurait pas eu de 13 novembre.
Probablement pas, ne serait-ce parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, trois des terroristes qui ont frappé ont emprunté la voie des migrants et que à cette époque-là, nous n'aurions pas accepté cette politique migratoire.
Mais quand on voit que...
Alors, cette question, elle est sensible. On l'a beaucoup évoqué, des terroristes qui s'infiltreraient en même temps que les migrants. Est-ce qu'il y a une forme d'amalgame? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont il faut qu'on se préoccupe?
Madame Marion Maréchal Le Pen est prise en flagrant délit de mensonges énormes. Puisque, pour prendre un exemple, et l'exemple qui a été notoire ce week-end, c'est que l'homme qui a organisé les attentats à Paris, ou en tout cas qui a eu un rôle majeur, c'est Monsieur Salah Abdeslam, qui est de nationalité française, qui n'a rien à voir avec les migrants. Et maintenant, disons les choses clairement, bien sûr que la France et que l'Europe doit regarder qui sont ces migrants. D'abord parce qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui, sans aucunement être des terroristes, sont des personnes qui n'ont pas le droit au droit d'asile et donc pour lesquelles nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de les accueillir sur le territoire français et sans doute sur le territoire européen. Et deuxièmement, parce que parmi un certain nombre d'entre eux, c'est vrai, il peut y avoir, nous le savons, l'État islamique essaye d'infiltrer un certain nombre de gens.
Il y a un des terroristes qui était impliqué dans les attentats de Strasbourg qui a quand même...
Bien sûr, mais ça a été dit et c'est répété régulièrement par Casnef. Mais dire que les mesures du Front National, qui sont d'ailleurs des mesures en carton-pâte, parce que dire qu'on va bloquer les frontières, est-ce que vous imaginez, est-ce que elle devrait
c'est
quand
plus
même
possible,
au
ça.
Moins connaître.
On a quand même dit qu'on allait renforcer ce matin, Bernard Cazeneuve, les contrôles aux frontières. C'est vrai que les gens peuvent s'interroger.
Le contrôle aux frontières est une chose. Vouloir bloquer de façon des gens qui auraient l'intention, de façon maligne et de façon individuelle, de passer les frontières entre la France et la Belgique, Madame Le Pen, elle a qu'à aller voir un village du Nord pour savoir qu'il y a les villes sont coupées entre la France et la Belgique. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la réponse, on le voit bien, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'Europe, parce que nous avons un espace de liberté commun, ce qui est très bien, mais il faut que nous ayons un espace de sécurité commune. C'est ça que nous sommes en train de construire, et c'est là où il y a un peu de retard, on peut le reconnaître. Mais toutes les propositions et le discours de Mme Le Pen sont factuellement des mensonges éhontés. Et plus on raconte des mensonges sur ces questions du terrorisme, plus on éloigne les Français et le gouvernement français de la capacité à traiter les vraies questions. Par contre, l'extrême droite, au plan européen, refuse de voter le PNR. Madame Marion Maréchal Le Pen a refusé de voter les lois sur
Marine
le renseignement.
Le Pen.
Non, Marion Maréchal a refusé. Donc, vous voyez, c'est ce jeu tout à fait ignoble où, quelque part, on refuse aux démocraties les moyens de lutter contre le terrorisme, et après, on vient raconter des salades, des mensonges, pour se prévaloir d'une précaution qui n'existe pas.
Mais Roselyne, regardez ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne qui semblait immunisée contre l'extrême droite, trois Länder ont vu l'extrême droite faire un bond absolument incroyable et inédit. Ne craignez-vous pas qu'il y ait cet effet cumulé migrants plus terrorisme, craindre des réactions, on va dire, des réactions contre la communauté musulmane.
C'est pour ça que la position française a été différente de la position allemande. Autant nous étions d'accord avec l'Allemagne pour dire qu'il fallait regarder les situations de demande de droit d'asile et respecter le droit d'asile, mais avec circonspection pour dire les choses comme elles sont. Et puis, autant nous n'étions pas d'accord avec ce qui a pu être à un moment la pensée de l'Allemagne, qui était de dire que elle pouvait accepter sur son territoire des centaines de milliers de gens dont on pouvait présupposer qu'un nombre d'entre eux était effectivement susceptible d'avoir le droit d'asile, mais nombre d'entre eux n'étaient pas, soit parce que c'était, on le voit bien par exemple dans les statistiques, il y a environ presque la moitié des migrants qui ne sont pas des gens ressortissants de pays pouvant prétendre au droit d'asile, encore qu'il faut vérifier y compris pour ces pays-là, mais des migrants qui viennent par exemple du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne et qui là n'ont pas, sont des migrants économiques, ce qui pose une autre problème. Ouais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas entendre d'ailleurs ces gens-là, mais...
Vous pensez que Manuel Valls a eu raison quand il était à Munich de critiquer de manière claire la politique d'Angela Merkel sur ce point-là ?
Il a rappelé que nous avions été solidaires...
Mal vécu à gauche, par certains.
Dans la tribune de Martine Aubry, notamment.
Oui, bien sûr, mais Mme Aubry, elle attendait, si j'ose dire, tout lui déplaît de façon tellement radicale que, vraiment, je comprends pas bien. Manuel Valls a dit aussi ce qu'il y avait à dire ce week-end. Je crois qu'on ne tire pas contre son camp et je pense qu'on a des remarques à faire, on peut les faire. On n'est pas obligé de monter tout en haut de l'échelle des considérations.
Il y a des convictions différentes qui sont exprimées,
on peut les comprendre. Non, mais des convictions peut-être différentes, mais d'ailleurs, il serait intéressant de savoir exactement ce que
proposent des objectifs différents.
Les uns et les autres d'un point de vue pratique. Ouais. D'un point de vue pratique. Est-ce que dans le Nord-Pas-de-Calais, la majorité des élus socialistes demandent qu'il y ait plus de migrants installés à côté de Calais, par exemple ? Est-ce que c'est la position de Martine Aubry ? Je ne le crois pas. Donc il faut faire attention. C'est bien de prendre des positions abstraites, mais après, il faut les gérer de façon concrète. Localisée, précise. S'il y a des positions précises, on pourrait entendre. Ce qu'a dit le Premier ministre, il a voulu dire que nous étions solidaires de l'Allemagne, mais qu'en même temps, nous pensions et nous avons toujours dit, c'est pour ça que la France a dit, nous pouvons prendre environ une trentaine de milliers de personnes qui sont demandeurs du droit d'asile, mais nous ne pourrons vraisemblablement pas aller au-delà, en tout cas dans les 2 ans qui viennent. C'est un effort important et de ce point de vue, c'est vrai que nous nous démarquons d'une certaine forme peut-être d'approche de Madame Merkel qui a laissé penser que au-delà du droit d'asile, et on a entendu ce discours, c'est on pourrait mettre de la migration parce que nous avons des besoins démographiques et économiques. Ça interpelle d'ailleurs pas simplement l'Allemagne, mais aussi l'Europe, parce que est-ce que nous pensons que finalement, est-ce que les Espagnols ou que les Portugais ne pourraient pas bénéficier en Espagne ou au Portugal de fabrication et d'industrie qui pourraient très naturellement suppléer des évolutions industrielles en Allemagne, parce qu'il y aurait une démographie déclinante. C'est pas évident que l'Allemagne doit être le seul lieu de production industrielle en Europe, puisque nous sommes dans une union européenne et économique. Donc il faudrait qu'on parle plus de toutes ces choses-là, ensemble, plus en amont. Et c'est ça qu'a voulu expliquer Manuel Valls.
Une petite digression à partir de là. L'accord qui vient d'être conclu entre l'Europe et la Turquie sur la gestion des migrants. Benoît Hamon dit qu'on sous-traite les migrants à la Turquie. Ça fait quand même grincer pas mal de dents, cet accord qui a été un peu négocié par Angela Merkel, justement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, vous voyez... En quelques
instants,
ça donne
pas une image
les gens
de
qui avaient une
positive.
Vision et en amouraient de Mme Merkel en viennent maintenant à lui dire qu'elle trahit les idéaux des droits de l'homme. Donc je pense qu'il faut peut-être se garder des commentaires qui passent d'un bord à l'autre comme ça. Alors, je dirais simplement que là aussi, en solidarité raisonnée avec Mme Merkel, nous pensons que d'abord, il y a un fait pratique. C'est que la Turquie est à notre frontière. Donc, quoi qu'on pense de la Turquie, et on peut avoir un certain nombre d'interrogations, nous sommes obligés de traiter de voisin à voisin, d'une façon pragmatique avec la Turquie, pour résoudre un certain nombre de problèmes. La Turquie elle-même accueille déjà sur son territoire, mais c'est vrai aussi qu'elle a une action plus directe que la nôtre en Syrie. Moi, je ne crois pas. Je trouve légitime que nous aidions la Turquie à gérer le problème des Syriens qui sont présents sur son territoire et qu'elle appelle à la solidarité internationale. Maintenant, est-ce que pour autant il faut faire évoluer substantiellement ou en tout cas en relation avec ces questions le problème des visas ou le problème de l'adhésion à l'Union européenne? Vous avez vu que le gouvernement français a dit bien sûr que nous étions toujours ouverts à discuter et de la question des visas et de la question des différents chapitres, c'est-à-dire des différentes étapes de la discussion pour l'entrée de la Turquie en Europe, mais que nous ne le ferions pas sous la contrainte ou en relation avec les événements de migration. Mais nous sommes obligés de parler évidemment avec la Turquie et ceux qui prétendent le contraire. Et de la même façon qu'on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas ne pas réfléchir. Moi, j'appelle tous les responsables politiques. Il faut évidemment être dans l'humanitaire et c'est le rôle du droit d'asile. Mais en même temps, on ne peut pas organiser et donner la prime à ceux qui imaginent qu'on peut déplacer. Parce que derrière tout ça, il y a certainement des migrants qui partent, mais il y a des gens qui veulent que les migrants partent aussi. Les bombardements auxquels on a donné lieu, les guerres qui sont là. Il y a aussi une volonté d'organiser quelque part une séparation ethnique dans un pays avec différentes communautés comme la Syrie. Et donc, on voit bien qu'il y a des gens qui poussent, d'un certain point de vue, les migrants à partir. Donc, notre action, elle doit être humanitaire, mais elle peut pas être totalement naïve non plus. Elle ne peut pas faire le jeu.
Un règlement politique.
Elle ne peut pas faire le jeu, en quelque sorte, de l'aspiration de ceux qui poussent les migrants dehors. Il y a des équilibres à trouver, et j'appelle tout le monde à réfléchir à ces équilibres géopolitiques et ne pas simplement voir dans l'histoire que des problèmes humanitaires qui par ailleurs existent.
Jean-Marie Le Guen, tout à l'heure, on change de sujet. Les sénateurs ont voté le texte sur la révision constitutionnelle. Hein, l'article 2, le fameux article 2 sur la déchéance de nationalité a été modifié par rapport à la version des députés. Et donc, dans cette nouvelle proposition, les sénateurs ont réservé la déchéance de nationalité aux binationaux pour ne pas créer d'apatrides. Donc, en l'état, hein, il est impossible de réunir les congrès car les deux assemblées doivent voter le texte de la même manière. Alors, est-ce que ça veut dire que la révision constitutionnelle est enterrée ?
Non, je ne crois pas. Je crois que le Sénat a exprimé une position après que l'Assemblée en ait exprimé une autre. Je pense que le Sénat a beaucoup cherché une position, il a essayé de se mettre d'accord avec lui-même, c'est-à-dire que la droite avec la droite. La différence de l'Assemblée nationale, c'est que à l'Assemblée nationale, non sans difficulté, non sans douleur, hein, disons les choses.
Oui, ça c'est moins qu'on puisse dire.
Non, mais moi, je suis pas de problème.
Il y aura notamment au groupe socialiste.
Pardon.
Évidemment,
puisque nous avons pris sur cette affaire de la déchéance de nationalité, elle a été proposée par François Hollande. À la demande de la droite et singulièrement des Républicains, qui le dimanche 15 novembre, c'est-à-dire deux jours après du 13, je vous rapporte les faits. Le 13 novembre, les attentats. Le 15 novembre, François Hollande reçoit les Républicains, Nicolas Sarkozy dit...
Et les autres groupes.
Oui, mais en l'occurrence... le principal groupe d'opposition.
Enfin bref, est-ce qu'il y aura ce... On veut savoir si ça ira au bout de l'histoire jusqu'à Versailles ou pas. Est-ce qu'il y aura un congrès à Versailles, oui ou non?
Mais je l'espère, et je n'en sais rien aujourd'hui.
Ça n'est pas encore complètement exclu.
Non, je crois que quoi qu'il se passe...
Vous vous entêtez dans l'erreur.
Écoutez, c'est votre point de vue. Je constate simplement que pour l'instant, le Sénat, qui est censé être pour la déchéance de nationalité, puisque c'est dans le programme de sa majorité, et qu'il prétend aller dans ce sens, a voté en fait un texte dont il sait qu'il n'est pas applicable, notamment parce qu'il a voulu mettre d'accord des gens qui étaient contre la déchéance de nationalité et des gens qui étaient pour. Des leaders de l'UMP, les Républicains...
C'est un peu ce qui s'est passé aussi à l'Assemblée, mais le résultat était différent.
Les Républicains, certains, M. Sarkozy, est pour faire voter la déchéance de nationalité... et d'autres sont contre.
Mais
Monsieur Fillon, d'autres
encore. Qui a beaucoup de soutien au Sénat.
Excusez-moi de parler un tout petit peu de ce qui se passe, et de pas répondre à une question à laquelle vous. Non, mais excusez-moi. Je ne répondrai pas à une question dont vous savez qu'il n'y a pas de. Que je suis bien dans l'incapacité de donner une réponse. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas accepter le texte du Sénat. Est-ce que le débat est clos? Non.
Voilà. Le président de la République avait dit qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Est-ce qu'on est parti pour une navette?
Non, il n'y aura pas des navettes comme ça qui tourneront comme un manège permanent.
Mais là, pardon, on a un cas d'école. Là, on a le sentiment que face à la réalité, tout ça, c'est de la littérature. Dans le fond, si Abdeslam est extradé, qui revient en France, il sera emprisonné en France. Il est français. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'il sera déchu ou non de sa nationalité?
Votre question est très précise et j'y répondrai de très façon précise. Comme ça, elle éclaire parfaitement notre débat. Voilà. Si on prend la position de l'Assemblée nationale, il peut être déchu. Si on prend la position du Sénat, il ne peut pas être déchu. Pourquoi? Parce que le Sénat ne propose la déchéance que pour les binationaux. Nous sommes refusés, après des hésitations et des débats.
C'était pas facile non plus.
Mais attendez, est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit le contraire, que c'était douloureux. Mais nous avons clarifié la position. Il est tout Français, quelle que soit l'origine de sa nationalité, peut être, pourrait être, décidé par un juge, à partir du moment où il a commis un acte terroriste, il peut être déchu de la nationalité. Tout Français ayant commis un acte terroriste, bon, ce que dit nous le Sénat, il nous dit non, c'est tout Français binational peut, enfin, seuls les Français binationaux
peuvent être déchus. Pour éviter de créer des apatrides, ce qui était une préoccupation du président de la République aussi, au départ.
Soyons clairs, sur les apatrides, nous avons signé, les combattants des droits de l'homme se sont toujours mobilisés à juste titre tout au long du XXe siècle contre la patridie, ce que j'appelle la patridie de masse. C'est-à-dire, il y a des gens qui avaient décidé, par exemple les nazis pendant la guerre en Allemagne vis-à-vis des juifs, par exemple le régime Khmer vis-à-vis des Cambodgiens d'origine chinoise, c'est collectivement, on virait de la nationalité du pays une sorte d'épuration ethnique collective. Ça, à juste titre, les nations et les combattants des droits de l'homme se sont toujours battus contre. Mais
là, on n'est pas dans un cas.
Ce n'est pas du tout ça, puisque nous sommes dans un cas où on parle d'apatridie individuelle. Combien de personnes s'agirait-il? Une poignée. Et donc, ce n'est pas de l'apatridie collective, c'est de l'apatridie individuelle. Ça ne me gêne pas, moi, du point de vue des droits de l'homme.
Ça en gêne certains.
Non. Parce que ceux qui se sont mobilisés contre l'apatridie l'ont fait au nom de la tradition du combat contre l'apatridie de masse. C'est autre chose que l'apatridie individuelle qui concernera quelques individus. Qui, contrairement à ce qu'on dit, ne vont pas se retrouver comme ça dans la stratosphère. Ils seront éventuellement présents sur un territoire, mais simplement...
Il y aura une mesure symbolique.
Une mesure symbolique qui aura été...
Vous l'avez dit, bon, on l'a bien compris, là c'est pas encore tranché, il y a encore beaucoup d'opposition sur ce texte. Je vous propose d'écouter encore une nouvelle fois Manuel Valls, qui s'exprimait toujours tout à l'heure et qui lançait un petit appel, on dirait, à l'unité.
Je crois aussi que dans ces moments-là, au-delà de l'efficacité qui doit être celle des forces de sécurité, de nos armées, de la justice et de la lutte contre la radicalisation, les symboles ont leur importance. Les symboles ont leur importance. Dans ce moment-là, par rapport à la menace... Comment pouvons-nous accepter un seul instant que ceux parmi nos compatriotes se retournent contre nous et tuent au nom de cette idéologie nos compatriotes et nos valeurs? Voilà cette question, elle est posée à chacun d'entre nous. Avançons ensemble sur toutes les questions et pas seulement sur une ou deux.
C'est un appel aux sénateurs. Avançons ensemble, essayons de trouver un compromis sur ce texte, c'est possible. C'est quoi les scénarios qui sont envisageables à partir de maintenant?
Je pense que les sénateurs devraient comprendre que leur position n'est pas tenable parce qu'elle n'est pas pratique. On le disait, M. Abdeslam ne serait pas concerné, ce qui est quand même la première chose étonnante. Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi les sénateurs s'entêtent à vouloir stigmatiser les binationaux. Encore une fois, je pense que leur position sur l'apatridie, qui se veut une position de principe, n'est pas justifiée. Autant je les rejoins complètement dans les problèmes d'apatridie collective, autant il n'y a pas besoin... Quand on est un parfait défenseur des droits de l'homme, il n'y a pas de quoi...
On peut trouver un compromis.
Craindre
vous y croyez encore.
Une apatridie individuelle. Moi, j'y crois parce que chacun devra rendre compte devant l'opinion publique. Vous savez, si chacun d'entre nous faisait de la politique sans avoir à rendre compte devant l'opinion publique, on pourrait s'attendre au pire. C'est bien parce qu'à un moment ou à un autre, on doit rendre compte devant l'opinion publique que parfois...
Ça s'appelle la
raison.
Hein.
Ça s'appelle la démocratie, exactement. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'on, pour l'instant, comme ce débat... Les Français en avaient assez. Donc ce débat a eu lieu au Sénat sans que ça intéresse grand monde. Bien, disons les choses. C'est pas la faute des sénateurs, c'est la faute Ouais. Mais maintenant qu'on se retrouve à nouveau dans des situations où il va falloir apporter des réponses précises pour Monsieur Abdeslam, pour d'autres éventuellement, il faut qu'on sache si oui ou non il est bien.
L'arrestation de Salah Abdeslam, ça joue un rôle dans ce contexte.
Mais bien sûr, c'est une prise de conscience. Les Français se disent, est-ce que Monsieur Salah Abdeslam doit rester français? Oui ou non?
Là, on a un cas concret.
Exactement. Et donc, on a le cas concret qui est de dire, Monsieur Salah Abdeslam, dans l'état de la proposition du Sénat, il ne pourrait pas être déchu de sa nationalité.
Malgré tout, est-ce que ce que Bruno Leroux a fait ce matin, il a fait un tweet qui a fait vraiment polémique, il a dit « attentat terroriste et protection de notre pays, la droite sénatoriale qui bloque la révision constitutionnelle est irresponsable ». Vous-même, vous avez appelé à la responsabilité. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un peu de récupération politique sur les événements pour influencer un débat? Est-ce que franchement, c'est la bonne méthode quand on entend le Premier ministre qui appelle à l'union, au rassemblement? Ça crée des polémiques politiciennes quand même.
Oui, bah écoutez, je ne crois pas que Bruno Leroux soit le premier à faire des polémiques politiciennes.
Hein. Donc c'en est bien une.
Non, mais écoutez, il s'exprime, il est le représentant d'une majorité à l'Assemblée nationale qui a fait des propositions. À aucun moment le Sénat, la majorité sénatoriale de droite n'a voulu discuter avec la minorité sénatoriale de gauche. Elle a fait son petit trail dans son coin. Après ça, qu'elle soit critiquée, me semble-t-il, il ne faut pas s'en étonner.
Est-ce que l'hypothèse qu'on a aussi évoquée d'aller au Congrès en ne mettant au programme que l'article 1 sur l'état d'urgence, éventuellement avec la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, fait partie des options qui sont envisagées malgré
nous
tout pour sortir de l'impasse?
Nous considérons aujourd'hui que le débat sur le problème de l'article 2 n'est pas clos. Il faut que chacun prenne plus nettement ses responsabilités. Voilà. Nous voulons savoir si ceux qui nous ont demandé le dimanche 15 novembre d'introduire la déchéance de nationalité, nous voulons savoir si vraiment ils ne veulent pas aller plus loin et si, au prétexte du fait qu'ils veulent réserver la déchéance de nationalité aux binationaux. Voilà. Si c'est ça leur position, c'est leur position et on n'avancera pas. Si leur position est de dire qu'ils ne comprendraient pas devant les Français pourquoi M. Abdeslam ne pourrait pas être déchu de la nationalité, voilà, on verra. Moi, je pense que les Français qui avaient un peu oublié ce débat et qui avaient été fatigués par ce débat, vont revoir ce débat avec un œil un petit peu différent. Voilà.
Alors, Monsieur Le Guen, pour terminer cette émission, on va faire une petite séance de questions un petit peu rapides, réponses rapides. On revient sur l'actualité un peu triste. Ce matin, quand vous avez appris ces attentats qui avaient eu lieu à Bruxelles, quelle était votre première pensée? Quand on est membre du gouvernement, qu'est-ce qu'on se dit?
Que le terrorisme frappe toujours et partout. Comme ma fille est depuis ce matin à Ouagadougou, ça m'a aussi interpellé indirectement. Oui, j'ai pensé à elle.
Vous avez souvent le rôle de méchant qui disent ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est un rôle de composition ou c'est votre nature?
Non, écoutez,
méchant sympa, hein.
Je pense qu'il y a des gens qui sont en perpétuel. Enfin, il y a une espèce de victimisation de ceux qui sont dans la critique perpétuelle des autres, si vous voulez. Donc c'est un peu bizarre. Moi, je rentre pas dans ce jeu-là. Je dis ce que j'ai à dire. Je crois à mon pays. Je crois qu'il faut avancer. Je crois que la gauche a un rôle. Voilà. Je suis pas là pour faire, du coaching et du nursing. Pour des gens qui ont une sensibilité où il faudrait toujours leur parler dans le sens de ce qu'ils veulent.
Ouais.
Voilà. L'habitude est trop forte au Parti Socialiste de ne pas dire ce qu'on
très
pense.
Rapidement.
En 2015, vous annonciez que le Parti Communiste allait disparaître. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que le PS tel qu'il est va disparaître?
Oh oui, je pense que le Parti Socialiste tel qu'il est doit disparaître. Non, ce que je disais, c'est que le Parti Communiste pourrait ne pas avoir d'élus
Très vite, Monsieur Le Guen.
Pour son centenaire. Voilà. Je pense qu'il y aura des élus de gauche et des élus qui seront de la mouvance du Parti Socialiste. Je crois simplement que le Parti Socialiste doit effectivement évoluer et se transformer. Il doit muter.
Comme le souhaite Manuel Valls, vous êtes sur la même ligne que lui.
Comme le souhaite Manuel Valls ou comme le souhaite Jean-Christophe Cambadélis lorsqu'il propose l'Alliance Populaire.
C'est la fin de Mardi Politique. Merci à Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à Audrey, à Tony, à Mathias Golshani et surtout à Roselyne Fèvre qui m'a accompagnée ce soir.
Appelez-nous